Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans Amos chapitre 4. Amos, donc, un des petits prophètes, donc ne tournez pas les pages trop vite. Amos chapitre 4. Alors j'espère que ce matin, personne ne se sentira visé. Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlevera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel et pêchez. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Le verset 12 résume bien le message du prophète dans ce chapitre. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, dans ce chapitre, ce message, ce conseil, cet appel, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, a bien un ton menaçant, n'est-ce pas? On le sent tout au long du chapitre, mais surtout cette phrase laisse peser ce ton menaçant et crée parfois dans nos esprits des images, soit de prédicateurs de rue avec leurs pancartes au siècle dernier, soit des menaces dans des films où avant de tirer sur quelqu'un, le méchant dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mais à la base, quand on réfléchit, cette phrase devait être quelque chose de positif, devait souligner une bénédiction, une grâce. Il y a deux manières d'entendre cette phrase « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Deux possibilités, deux moyens de rencontrer Dieu qui existent encore, qui sont encore une réalité aujourd'hui. Soit ça peut être des paroles menaçantes, soit ça peut être des paroles de grâce et de bénédiction. Dieu nous invite à transformer dans notre vie ce qui pour Israël était devenu une menace en grâce et en bénédiction. Donc, à la base, pour Israël aussi, rencontrer Dieu était une bénédiction. C'est peut-être la plus grande bénédiction qui existe. C'était une grâce que Dieu faisait à Israël. Dieu est venu à leur rencontre. Dieu est venu se présenter à eux. Dieu a voulu créer une relation entre le peuple d'Israël et lui-même. Alors les experts en hébreu nous disent que les paroles que Amos emploie ici sont une manière d'exprimer, sont inspirées des paroles de Moïse dans Exode chapitre 19, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, on est donc juste après la sortie d'Égypte, au moment où Dieu va vraiment souder ce peuple d'Israël, va montrer qu'il est leur Dieu, va leur montrer comment vivre dans son royaume en tant que son peuple. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. » Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Moïse disait au peuple, « Préparez-vous, dans 3 jours, vous allez rencontrer Dieu. » Et Moïse les a conduits jusqu'à la montagne où ils allaient rencontrer Dieu. Donc Moïse avait dit au peuple, sous forme finalement d'une grâce, « Préparez-vous à la rencontre de Dieu. » Surtout pour ce peuple qui avait jusqu'à là connu que l'esclavage en Égypte, qui avait connu que les idoles d'Égypte, Dieu leur dit, « Préparez-vous, vous allez rencontrer Dieu. » Et Dieu donc est descendu sur la montagne et s'est approché du peuple pour créer cette rencontre avec Israël. Et finalement, quand on regarde ce que Dieu révèle à Israël par la suite, la manière dont il demande à Israël de vivre, la forme de religion qu'il a créée pour Israël, tout était bâti autour d'un endroit, autour de la tente, que certaines traductions de la Bible appellent « tente de la rencontre ». Où donc Israël, le peuple d'Israël et surtout leurs représentants allaient rencontrer Dieu. Dans Exode chapitre 33, verset 7, il est écrit que Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation, ou certaines traductions l'appellent tente de la rencontre. D'ailleurs, pour cette raison qu'à l'époque, John et Anne avaient choisi d'appeler l'église ici l'église de la rencontre. C'était en référence à ce lieu de rencontre qui existait pour le peuple d'Israël lieu qui soulignait donc la rencontre avec Dieu comme fondement de leur vie, comme fondement de leur foi, de leur religion. Il l'appela donc tente de la rencontre, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Dans Exode 25, verset 22, Dieu dit à Moïse, « C'est là que je me rencontrerai avec toi. » Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Au cœur de la vie d'Israël, il y avait ce lieu de rencontre. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Exode 29, verset 43. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. C'était à la base une grâce que Dieu faisait à son peuple. Moi, le Dieu vivant, moi, le Dieu créateur, moi, le Dieu au-dessus de tout, Dieu des armées, comme il se décrit dans ce chapitre que nous venons de lire, je me rencontrerai avec mon peuple. Je viendrai vers mon peuple. Pas de plus grande grâce, de plus grande bénédiction que le Dieu des cieux qui est prêt à descendre à la rencontre de son peuple. Donc tout était bâti sur la base de cette rencontre entre Dieu et son peuple Israël. Plus tard, quand Dieu leur donne la loi, ce n'était pas donné dans le sens d'être un moyen pour le peuple de vivre tout seul, ou de pouvoir se justifier tout seul, montrer à quel point ils étaient au-dessus de tous les autres peuples. La loi était là pour construire sur la base de cette rencontre avec Dieu. La base de tout, c'était la rencontre. Puis Dieu dit à son peuple, « Maintenant que vous m'avez rencontré, maintenant que vous me connaissez, maintenant que je suis votre Dieu et que vous êtes mon peuple, voici comment je vous demande de vivre en tant que mon peuple. » Mais ce n'était jamais censé être le moyen de devenir le peuple de Dieu. C'était maintenant que vous m'ayez rencontré, cette rencontre doit changer votre vie, doit bouleverser votre vie au point où vous serez à part de tous les autres peuples. Parce que eux, ils ne m'ont pas rencontré. Vous m'avez rencontré et cette rencontre doit tout changer chez vous. Donc voici à quoi ça ressemblerait être un peuple qui a vécu cette rencontre avec moi. C'est pour ça que dans Lévitique, chapitre 20, verset 26, il dit « Vous serez saints pour moi ». Car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. C'était donc la rencontre avec Dieu qui était la base de tout, qui était le fondement sur lequel le reste était construit. Et après, la loi était moyen de dire, nous sommes un peuple particulier parce que nous avons rencontré le Dieu vivant et vrai. Et voilà, cela transforme notre vie. La sainteté donc devait être la conséquence de la rencontre, non pas la condition pour rencontrer Dieu. C'était la rencontre qui était le fondement, pas la loi. Mais avec le temps, cette réalité s'est transformée dans la pensée et dans l'expérience du peuple d'Israël. Nous, on est, en tant que chrétiens, surtout familiers avec la mauvaise compréhension des choses des pharisiens et des scribes qui voyaient dans la loi un moyen de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir être digne d'entrer en contact avec Dieu ou peut-être même juste de pouvoir se satisfaire tout seul et se justifier tout seul. Et dans l'Épître aux Galates et aux Romains en particulier, Paul souligne le fait que la loi ne pouvait jamais faire cela, puisque en tant qu'être humain, nous sommes pécheurs, en tant que pécheurs, nous sommes incapables d'obéir parfaitement à la loi. Donc si la loi devient la condition, alors on n'a aucune chance. Mais la loi était censée simplement nous montrer comment on pouvait vivre en tant qu'un peuple saint, nous révéler notre péché, le manque de sainteté pour nous pousser vers un sauveur, vers cette rencontre avec Dieu dont on avait besoin pour faire partie du peuple de Dieu. Mais des siècles avant que n'arrivent les pharisiens et les scribes, lorsque on a le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, déjà là, il y a une mauvaise compréhension des choses qui s'installent parmi le peuple d'Israël, peuple d'Israël qui, finalement, dans leurs propres mots, ont voulu vivre comme tout le monde, ont voulu ressembler à tout le monde autour d'eux. Si vous vous souvenez, c'est la phrase qu'Israël a dit au moment où ils ont voulu établir un roi comme chef de leur pays. Ils ont dit, nous, nous voulons être comme tout le monde. Alors que Dieu avait dit, suite à notre rencontre, vous êtes un peuple particulier, mis à part, qui m'appartient. Eux, ils ont dit, nous voulons être comme les autres, et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Ils sont devenus comme toutes les autres nations, comme tous les autres peuples, comme les sociétés qui vivaient autour d'eux, à tel point que donc, d'abord il y a eu cette période des rois qui a rarement bien terminé. Le premier roi était Saül, et c'était tellement mal terminé que Dieu s'en est repenti. Ça a continué par David, puis par Salomon. Et donc, juste deux générations après, avec le fils de Salomon, il y a eu une division dans le royaume, séparation entre deux tribus au sud, autour de Juda, Jérusalem, qui sont restés fidèles à la famille de David et qui sont restés fidèles, plus ou moins, au culte de l'Éternel, et puis les 10 tribus dans le royaume du nord qui se sont séparées de la famille de David. Et ce royaume du nord, ce royaume d'Israël, dès sa création, est devenu un pays idolâtre, païen, comme toutes les autres nations autour. Donc, finalement, ils ont eu pleinement ce qu'ils ont voulu. Nous voulons ressembler aux gens qui vivent autour de nous. Alors qu'ils étaient un peuple à la base séparé, particulier, suite à cette rencontre avec Dieu, ils sont devenus comme tous les autres et leur pays est devenu un pays idolâtre. On le voit dans 1 Roi, chapitre 12. Alors à la base, on peut dire que le raisonnement du roi Jéroboam, créateur du royaume d'Israël du Nord, était tout à fait logique sur le plan politique, humain, mais qui finalement a éloigné le peuple d'Israël de Dieu. 1 Roi 12, verset 26 jusqu'au verset 29. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. » Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. » Donc, sur le plan humain, on peut le comprendre, mais très souvent, le péché s'habille de manière tout à fait logique, raisonnée, raisonnable, mais ce qui était raisonnable d'un point de vue politique, l'a obligé à pécher contre l'Éternel et à entraîner son pays dans ce péché d'idolâtrie qui les a éloignés de Dieu, au point où donc, par la suite, ils ne vivaient plus comme peuple de Dieu. Ils n'étaient plus ce peuple mis à part pour Dieu suite à cette rencontre avec Dieu. Ils étaient devenus un pays idolâtre comme les autres sociétés qui les entouraient. Par la suite, Dieu leur a envoyé des prophètes pour essayer de les rappeler à lui, pour leur rappeler quel était leur statut, qui ils étaient vraiment, est-ce que cela impliquait, mais pas les moindres. Le royaume du Nord a eu entre autres Élie, Élisée comme prophètes, ont vu ces miracles, mais comme dit l'Éternel dans ce passage d'Amos, ce n'est pas pour autant que vous êtes revenus à moi. Malgré tout cela, vous n'êtes toujours pas revenus à moi. Et donc, à un moment donné, on arrive à ce moment où donc le prophète Amos annonce ce message de Dieu. Alors, si vous ne voulez absolument pas me rencontrer en tant que votre Dieu pour m'adorer, vous allez tout de même me rencontrer. Mais non plus comme votre Dieu, mais comme votre juge. Vous allez être enlevé en exil dans l'empire assyrien, mais sachez que cette conquête par l'empire assyrien, ça ne sera pas simplement une question politique, une question militaire, d'une nation plus forte que les autres qui fait de l'expansion. Derrière cet empire assyrien, c'est moi qui sera contre vous. C'est moi que vous allez rencontrer. Donc, si vous refusez absolument de revenir à moi en tant que votre Dieu et de m'adorer, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu à travers les armées de l'Empire assyrien qui vous conduiront en exil. D'où le côté menaçant de cette phrase qui, à la base, était la plus grande bénédiction que le peuple d'Israël pouvait connaître. Lorsque Moïse leur a dit « Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu lorsque je vous conduise à la montagne où il va se révéler à vous. » Cette grâce que Dieu leur faisait par leur péché s'est transformée en menace. Aujourd'hui encore, cette phrase « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » peut être soit une bénédiction, soit une menace. Pour ceux qui refusent de venir à Dieu en tant que Dieu par la repentance, qui refusent de l'adorer, qui refusent de le reconnaître en tant que Dieu, pour eux, cette phrase reste encore aujourd'hui une parole de menace. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10, l'apôtre Paul écrit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » La Bible nous dit que Dieu est non seulement le créateur du monde, veut non seulement être le sauveur, mais il est aussi le juge de toute sa création, et qu'il existe bel et bien un jour devant nous où le Seigneur va revenir en tant que juge, et où il va demander des comptes à tous, et où, finalement, nous dit la Bible, seuls ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau vont être acquitté ce jour-là parce que Jésus-Christ a porté nos péchés dans son corps sur la croix lorsqu'il a été mis à mort. Donc, le jour où Dieu viendra, il faut bien se préparer à la rencontre de Dieu, soit comme juge, soit comme sauveur. Mais la Bible nous dit clairement que tous le rencontreront. La question, c'est comment est-ce qu'on va le rencontrer? Avec quel statut est-ce qu'on va le rencontrer? Avec quelle attitude va-t-on le trouver? Jean 5, verset 29 parle aussi de ceux qui auront fait bien, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Une rencontre inévitable avec Dieu. Et puisque Dieu est Dieu de toute la terre, ça concerne tout être humain, de toute société, de toute culture, de toute nationalité. Tous nous rencontrerons le Seigneur le jour où il va revenir. Donc, pour ceux qui, comme dit Jean, font le mal, cette phrase est menaçante, comme ce l'était pour Israël. Mais avant d'être une menace, aujourd'hui encore, comme pour Israël, c'est censé à la base être une parole de bénédiction, une parole encourageante, une parole de grâce. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi. Venez à la rencontre de ton Dieu. Jean 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à la rencontre de son Dieu. Jean 14, versets 6 et 7. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je suis le chemin. Venez à la rencontre de votre Dieu. Dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, tout est construit sur le fondement d'une rencontre avec Dieu. La base de tout, c'est rencontrer Dieu. C'est cette invitation de Dieu à venir à sa rencontre pour le connaître, pour être en relation avec lui. Et après, tout le reste est construit sur le fondement de cette rencontre. En Jésus-Christ, Dieu était venu à la rencontre de son peuple. Comme il est descendu sur la montagne à la rencontre du peuple d'Israël, Jean chapitre 1, verset 14, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Il est venu à la rencontre de l'humanité. Puis, après sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel, le Saint-Esprit est venu aussi afin que la foi chrétienne soit aussi une foi fondée dans une rencontre. Que tout le reste soit bâti sur cette rencontre réelle, personnelle, avec le Dieu vivant et vrai, tout comme le peuple d'Israël avait vécu cette rencontre avec Dieu. Ça veut dire que lorsque nous venons à l'Église, nous ne venons pas juste pour suivre les rites d'une religion. Ce n'est pas une activité religieuse sur laquelle notre vie chrétienne est bâtie. Ce n'est pas les rites qui sont le fondement, même si ce sont des rites évangéliques, pentecôtistes. Notre foi doit être bâtie sur la réalité d'une rencontre avec le Dieu vivant et vrai. Et le cœur de notre foi, c'est une rencontre avec Dieu. Lorsque nous nous réunissons pour le culte, Nous ne nous réunissons pas simplement pour pratiquer quelques rites religieux. Nous ne nous réunissons pas principalement juste comme un club social qui apprécie être ensemble dans la même salle. Lorsque nous nous réunissons pour le culte, nous venons avant tout pour une rencontre ensemble avec Dieu, puisque Dieu a donné cette promesse particulière que, oui, il est avec nous tout le temps, mais il y a sa présence tout particulière lorsque son Église est réunie. Et cette rencontre avec lui doit être au cœur, doit être le fondement de tout ce que nous faisons lorsque nous nous réunissons. Lorsque nous prions, si c'est ensemble dans la réunion de prière, ou si c'est seul à la maison, notre temps de prière est censé, pareil, être un temps de rencontre avec Dieu. C'est la conséquence du fait que Dieu est le Dieu vivant et vrai. Il n'est pas juste une statue, une idole, quelque chose de muet, quelque chose de matériel. Il est le Dieu vivant qui désire avant tout, qui nous invite avant tout à venir à sa rencontre et qui promet que lui, il viendra à la rencontre de son peuple. Ma lecture biblique, comme on l'a vu dimanche dernier, pareil, est censée être un temps de rencontre avec le Dieu vivant. Paul dit aux chrétiens, vous n'êtes pas venus à une idole muette qui est incapable de parler, vous êtes venus au Dieu vivant qui parle. Lorsque nous ouvrons la Bible pour lire, ce n'est pas juste pour avoir fait notre lecture, parce qu'on croit que c'est bien de lire la Bible, ou pour récolter quelques principes pour la vie, ou pour augmenter notre connaissance de l'histoire ou des faits religieux. C'est avant tout pour rencontrer le Dieu qui est vivant et qui parle, afin qu'il ait l'occasion de nous parler à travers sa parole. Mais c'est prévu être un temps de rencontre avec ce Dieu vivant. La phrase donc qui nous est adressée comme au peuple d'Israël, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Parce que souvent, ce qu'on va vivre dans ces moments de culte, de prière, de lecture biblique, dépend de notre attitude. Est-ce que je me prépare à ce moment-là à la rencontre de Dieu, ou est-ce que j'agis simplement avec un esprit religieux, avec une attitude religieuse, ou simplement, j'accomplis mes rites, je me sens bien, j'apprécie avoir fait cela? Est-ce que c'est simplement une activité que je fais, ou est-ce que je viens avec une attitude de cœur qui s'attend à ce que ce soit une rencontre avec Dieu? La Bible nous dit que Dieu est vivant, qu'il est vrai, et qu'il est un Dieu qui se révèle et qui aime se révéler à son peuple. S'appeler évangélique veut dire que nous croyons que la Bible dit vrai et que la Bible est notre guide de conduite de comment nous devons vivre en tant que chrétiens. Si je crois donc ce que dit la Bible, alors je me prépare à la rencontre de mon Dieu. Parce que je crois donc que Dieu est vraiment vivant. Ce n'est pas juste une théorie théologique pour pouvoir dire « Oui, la Bible dit que Dieu est vivant. » C'est une réalité que je suis appelé à vivre. Une rencontre avec un Dieu vivant. Si je crois que Dieu se révèle, alors je m'attends à ce qu'il se révèle à moi. Ce n'est pas juste une activité que je fais pour dire « voilà, je l'ai fait ». Mais c'est une rencontre avec un Dieu qui se révèle, avec un Dieu qui parle. Il faut, c'est comme on a vu la semaine dernière, c'est pour ça que je soulignais cet aspect de méditer la parole de Dieu. Il faut que cette parole devienne une réalité vécue dans ma vie, qui n'est pas juste une théorie de ce que je dis croire, mais qui est ce que je vis. Je dois me préparer, je dois être préparé dans ces moments-là à rencontrer Dieu. Je dois avoir l'attente de rencontrer Dieu. Et puisque Dieu est fidèle, nous pouvons avoir cette confiance que si moi je viens avec cette attitude-là, si moi j'aborde ma lecture biblique, ma prière avec cette attitude-là, Dieu est fidèle à ses promesses et donc il se révélera. Il se rencontrera avec moi. Donc, est-ce que je viens avec cette attente, dans la foi, dans les promesses de Dieu, de rencontrer le Dieu vrai, le Dieu vivant? Dieu nous encourage en tout cas à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Avant d'être une menace, c'est une promesse de bénédiction et de grâce. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer le Dieu vivant et vrai. Prépare-toi à connaître ce Dieu-là. Que cette parole, pour nous, ne devienne jamais une menace, puisqu'on s'est éloigné de lui, puisqu'on a refusé de venir à sa rencontre, mais que nous puissions au contraire nous préparer à la rencontre du Dieu vivant et vrai dans notre vie, dans notre réalité, tous les jours. C'est ça la grâce qu'il désire nous faire. C'est ça cette relation qu'il désire avoir avec nous. Être cette réalité fondamentale de notre vie sur laquelle tout le reste est construit. Oui, il nous demande d'être saints. Mais il dit, je vous demande d'être saints parce que vous m'avez rencontré. Parce que vous êtes ce peuple qui, après la rencontre avec moi, ne pourra plus être le même, ne pourra plus être comme les autres, comme ceux qui ne m'ont pas rencontré. Mais avant tout, ce qu'il désire, c'est cette rencontre avec nous.